France Culture.
Chers auditeurs de France Culture, je vais vous raconter une histoire.
La nuit russe à Paris respirait un parfum d'exil et de volupté. Dans ces cabarets illuminés de rouge et d'or, les tziganes jouaient comme si les cordes étaient reliées à leur sang. Les femmes demandaient toujours la même chanson, et la même chanson les faisait pleurer.
Joseph Kessel était un homme du voyage, et Romain Gary n'était pas le contraire qui écrivit aussi
« Ma mère vivait de souvenirs flamboyants, de soirées au cabaret russe, où les tziganes faisaient pleurer les violons et rire la nuit. Paris semblait un prolongement de l'âme slave. »
Un cabaret russe, c'était un lieu dystopique, une uchronie, une zone d'autonomie temporaire, un espace liminal où tout s'abolissait. Quelque part entre un cercle de la Divine Comédie de Dante, une plaine avec un cavalier très lointain et un rêve hitchcockien mis en scène par Salvador Dali. Tous ces mots pour dire que ces lieux nocturnes, sortes de roulettes russes jouées avec de la vodka et des cœurs brisés, étaient comme des marges de Paris créées par les violons et les voix d'exilés, aristocratiques ou pas, de la Russie blanche. Poussés par la révolution bolchévique de 1917, les voilà, ces Russes, transplantés dans un Paris des années folles. Celui tout aussi exotique de Joséphine Baker ou du sulfureux Fakir Birman. Ces princes migrants, ces comtesses sans papier, déchus de leurs privilèges liés au régime tsariste, se retrouvent chauffeurs de taxi parisiens, affectés à la plonge ou demi-mondaines entretenues. Ceux qui maîtrisaient le vertige causé alors par l'âme slave travaillent de nuit dans des cabarets aux noms aussi évocateurs que le Scheherazade, l'Étoile de Moscou, le Monseigneur ou le Raspoutine. Ces cabarets, qui fleurirent à Paris de 1917 à 1988 et ruinèrent tant de désespérés et de romantiques, furent les bastions d'un style musical inoubliable. Un hybride de romantisme parisien et de grandeur russe. Miettes de Romanov, Cosaques, Tcherkesses, Arméniens ou descendants de Gengis Khan s'y croisaient jusqu'au petit matin. Certains arrivant en uniforme, à cheval, d'autres servant des brochettes enflammées sur les épées avec lesquelles ils avaient arpenté les rues de Saint-Pétersbourg, le menton haut avant ce voyou de Lénine. Parmi eux, la vedette était occupée par les représentants d'un peuple maudit, une ethnie chassée d'Inde et de partout au Xe siècle et universellement honnie, dont le talent artistique unique s'était enrichi de pays en pays, empruntant à la Perse, aux Balkans, à l'Empire ottoman, à la Transylvanie, aux Carpates et à tant d'autres, les tziganes.
D'où viens-tu, gitan ? Je viens de Bohême. D'où viens-tu, gitan ? Je viens d'Italie. Et toi, beau gitan, de l'Andalousie. Et toi, vieux gitan, d'où
ce que la musique doit à ce peuple est encore difficile à évaluer. Nul doute que le jazz, la chanson française, le flamenco ou la musique de fête, tout simplement, leur doivent un inestimable sens de la profondeur, couplé au parfum irrésolu de la liberté. À Moscou, à la fin du XVIIIe siècle, un comte, Alexei Orlov-Chesmensky, avait déjà eu l'idée de s'adjoindre le premier chœur de tziganes moldaves connu. Dans une lettre à un ami, Léon Tolstoï s'enflamme pour cette musique en ces termes.
La musique des bohémiens est sans artifice. Elle est âme et chair. Elle émeut par sa sincérité et sa vigueur, sans avoir besoin de notes écrites ni de règles.
La curieuse fusion entre l'aristocratie russe et les nomades tziganes ne s'est pas faite à Paris. en Russie tsariste, avoir son orchestre ou son chœur de tzigane, considéré comme des serfs, était un signe de bon goût, mais aussi d'une pointe d'aventurisme qui s'accompagnait d'une passion pour l'ivresse, la fête et l'amour libre. À Paris, où le livre « Nuit de prince » de Joseph Kessel décrit une activité nocturne russe pleine d'effervescence dans le quartier de Pigalle, la musique tzigane en exil va trouver sa voix, ou plutôt ses voix, puisqu'elle va se scinder en deux styles, tout aussi fascinants l'un que l'autre, portés respectivement par deux familles, les Polyakov pour les chœurs et les Dimitrievitch pour les chansons. En octobre 1922, Nastia et Dimitri Polyakov chantent pour l'ouverture au 54 rue Jean-Baptiste Pigalle du premier cabaret russe, le château et caveau caucasien. Sur trois étages, on y danse à la géorgienne, on y lance des poignards sur des belles jeunes filles aux yeux bandés, on casse les verres, on enflamme les chachliks et on y chante à plein poumon. Tout y est hors de prix. C'est un gouffre où l'ivresse est encouragée par l'expérience des serveurs grands russes. Avec le Yar au 63 rue Pigalle et la Troïka rue Fontaine, ce triangle devient celui de la perdition. Les hommes s'y éprennent de beauté slave qui les emmènent au petit matin, dépouillés de leurs économies, titubant dans les rues au son des violons qui les suivent. Accessoirement, ces lieux seront aussi parmi les premiers à proposer du jazz et même des musiques latines. Alors que les troupes allemandes, qui projettent aussi l'extermination des tziganes, débarquent, un préfet exfiltre les Dimitrievitch vers l'Amérique du Sud et le Brésil, où Valia épousera un diplomate. Les Polyakov, plus subtilement en Rome, ne sont pas inquiétés. Le style des Polyakov est tzigane, certes, et ils exerceront longtemps un monopole sur ce style de musique à Paris. Mais il est plus proche des goûts de la grande bourgeoisie russe traditionnelle que celui des Dimitrievitch, pour lequel j'ai, disons-le, une passion. Valia et Alyosha Dimitrievitch sont des Roms caldéraches, passés par l'Indonésie, la Birmanie, l'Égypte, le Maghreb, puis l'Espagne, pour finir en 1931 sur un terrain vague, porte de Bagnolet. Leur père étamait des samovars, mais gagnait plus d'argent avec ses enfants. La famille trouve bientôt refuge dans une grande villa à Asnières. Cette maison et cette banlieue deviendront des points d'effervescence tzigane, des fêtes dont Joseph Kessel sera un régulier. Chante Valia. Un disque, Les dernières voix tziganes, enregistré avec Valia Dimitrievitch et Volodia Polyakov, les deux grandes maisons de l'art tzigane parisien, est enregistré en 1967 par Joseph Kessel avec tous les grands classiques. Au dos, le lion Kessel soupire.
Je les ai tous connus. J'ai partagé longtemps une part de leur existence. Dans les établissements où, jusqu'à l'aube, ils chantaient pour le plaisir des autres. Dans les bars et les cafés du petit matin où, leur travail achevé, ils chantaient et jouaient encore pour leur seul plaisir. Et chez eux, enfin, où les enfants dormaient avec des guitares pour oreillers.
Alyosha, grand danseur au physique nerveux, à la casquette de marin et à la voix de fumeur, a fait l'acrobate, le gaucho, traversé des cercles de feu avec sa moto et chanté avec sa sœur à l'Ermitage, puis au Poisson d'Or à Montparnasse. Et puis exilé en 1950 à Buenos Aires, il est fauché et rentre à Paris pour chanter avec sa sœur. Valia et Alyosha s'opposeront jusqu'à leur mort au Rasputin, bijou oriental encore intact, devenu boîte de nuit pour gosses de riches délurés. Sa musique est tout simplement irrésistible. Écoutez-le chanter en duo, improvisé, avec une des plus grandes stars de tous les temps, grand militant de la cause tzigane, mon pharaon préféré, Yul Brynner, en 1967. Mais que se passait-il donc dans ces lieux invraisemblables ? Un passage du Gentleman d'Epsom, un film de 1962 de Gilles Grangier avec Jean Gabin, nous donne une petite idée.
Madame Pascalier, commandant Giot.
Dites donc, monsieur Boris, une livre de caviar pour deux, ça c'est un client.
Client ? Un soir des années 30, le commandant Brian Charmery est entré ici à cheval. Il était alors amoureux de Lily de Montparnasse. Lily occupait tous les soirs la table à droite de l'orchestre et dînait toujours torse nu. Une reine ! La nuit dont je vous parle a duré 60 heures sans que personne ne sorte. Le commandant appelait Lily Soigna et voulait l'épouser devant l'archimandrite de Saint-Pétersbourg. Il avait bu comme un Romanov.
Il était complètement sous, oui.
Sous. Mais allez donc vider les cendriers, petit occidental.
On peut aller se recueillir au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois sur la tombe d'Alyosha Dimitrievitch, qui avant de partir avait écrit ce tango qui disait
« Où êtes-vous donc ?» À Gallipoli, à Athènes, peut-être dans les plaines d'Argentine, chargeant pour l'Europe de la farine et du maïs. On vous a vu au milieu d'un public de cabaret. Peut-être êtes-vous sur un escalier de Galata, avec des sémites, du hareng et du halva.
Les tziganes sont l'éclat de cette vie. La nuit en est l'obscurité. Il m'appelait l'obscur et j'habitais l'éclat, dit Saint John Perse en écho au philosophe présocratique Héraclite. Des cabarets ont mené des Parisiens à des extases ruineuses, à des transes volées aux chamans sibériens, à des épuisements qui furent comme des renaissances par la seule force d'exilés de l'Inde moyenâgeuse et des plaines caucasiennes. Les nuits s'en vont, elles n'ont pas de mausolée. Là où trônait le cabaret avec toutes ses tentations, l'on trouve un banal kebab avec toutes ses déceptions. Mais l'âme tzigane, l'âme des persécutés, victime de la révolution russe, de la Shoah, du franquisme, des Balkans ou du populisme hongrois ou roumain, a infusé notre culture pour nous donner des Bizet, des Django, des Kusturica, des Rosalia et même des Gypsy King et des Kenji. Ce qui de nous est resté du nomade a rencontré un jour ce qui en nous aspirait au romantisme, à l'élégance absolue et peut-être à la perdition en un lieu disparu, le cabaret tzigane. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Alors écoutez et réécoutez ce programme Forever sur toutes les plateformes et sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Bien joué cette réalisation de Cassandre Puel. Subtile cette prise de son de Jordan Fuentes. Habile mixage de Nicolas Leroulet. Chargé, très chargé même de programme, Aurélie Marsay. Et bravo à Théo Wiesmann.